Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table du vendredi. Nature, culture, un anthropologue dessinateur dans le bocage, en immersion dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. À partir de 12h55, Alessandro Pignocchi revient sur cette expérience qu'il raconte et retrace aussi dans La Recomposition des Mondes, un roman graphique publié au Seuil dans sa nouvelle collection Anthropocène. Mais d'abord, une avocate pénaliste, une jeune fille voilée, un fiancé en prison, un frère qui a rejoint Daesh en Syrie. C'est le cadre du nouveau polar judiciaire de Sylvie Granotier, Un monde idéal qui paraît chez Albin Michel. Auteur en 2011 de La rigole du diable et de Personne n'en saura rien, juste après, prix Mauvais genre en 2015. La romancière et scénariste est notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Bonjour Sylvie Granotier.
Bonjour.
Pas la peine de vous demander d'où vous est venue l'idée de ce polar. Depuis 2015, la France, mais aussi la Belgique, l'Espagne, l'Angleterre vivent dans cette nouvelle réalité, la radicalisation d'une partie de sa jeunesse, l'attrait pour cette nouvelle idéologie, d'autres diraient utopie, d'autres y ajouteraient mortifère. Néanmoins, il y a cette réalité, mais il y a encore beaucoup à en apprendre, beaucoup à explorer sur ce qui se joue actuellement. D'où est partie, non pas l'idée de cette réalité, mais l'envie d'en faire une fiction?
Je me suis rendu compte que ça venait d'il y a très très longtemps, en réalité. D'ailleurs, je mesure maintenant que pour chacun de mes romans, après coup, je vois tous les petits points reliés qui ont fini par faire un roman, mais sur le moment, je ne les contrôle absolument pas. Et moi, je dirais que ça commence avec mon enfance au Maroc, où ma meilleure amie marocaine, à l'âge de 13 ans, a été sortie de l'école et a disparu de ma vie. La dernière fois que je l'ai vue, c'était devenu quasiment une femme. On n'avait plus rien à se dire. Moi, j'étais une petite fille. On allait la marier. C'est des choses qui se passent dans une vie. Quand on est enfant, on ne les raisonne pas. Voilà, c'était la réalité à ce moment-là de cette histoire-là. Et puis, c'est en parlant en fait de mon roman l'autre jour que je me suis rappelé que ça avait commencé avec l'histoire de Raled Kalkal. Et je me rappelle avoir été... Ça a déclenché en fait une curiosité chez moi parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, c'était ce jeune terroriste lyonnais qui a été abattu par la police. Mais il se trouve qu'un chercheur allemand l'avait interviewé dans le cadre d'une étude quelques années auparavant. Et je lis cette interview dans Le Monde et je découvre un garçon très brillant, extrêmement lucide, extrêmement désespéré, avec un visage en même temps qui dégageait quelque chose de presque enfantin et de joyeux. Et j'ai commencé à ce moment-là à me dire comment ça marche, comment le déclic peut se faire. Après, il y a le 11 septembre, il y a les attentats effectivement de Paris. Et je sais que j'ai lu, mais pendant toutes ces années, tout ce que je trouvais dans la presse étrangère, qu'on ne nous donne pas à entendre nécessairement, c'est-à-dire ces personnes-là qui vivent au milieu de gens qui vont éventuellement massacrer, comment ça se passe, quel est leur rapport aux autres. Et puis, effectivement, le déclic immédiat dont je suis consciente, c'est celui, tout d'un coup, de voir dans mon pays des jeunes filles voilées se multiplier. Événement complètement nouveau et qui me rappelait effectivement mon enfance marocaine. Et mon premier réflexe est de rejet, et le deuxième est de se dire, essayons quand même de comprendre.
Dans ce rapport aux autres que vous évoquez, il y a une première chose qui est quand même assez étonnante et qui saute aux yeux à la lecture de votre roman, Sylvie Granotier, c'est dans ces échanges entre la sœur, Émilie, on va revenir sur ce personnage, et son frère, qui lui est parti en Syrie faire le djihad, espère qu'elle va venir la rejoindre, à distance, la tient quand même sous son emprise. Dans leur rapport, il y a ce diktat de la transparence, de l'obéissance, de tout se dire, il veut tout savoir, elle ne peut rien lui cacher. Mais dans le rapport qu'elle a aux autres, il y a au contraire le mensonge, il y a au contraire la dissimulation d'une partie de ce qui fait sa vie. Hein. Dans cette double réalité qui est à la fois la transparence d'un côté et le mensonge, ça c'est une des particularités qu'on peut retrouver aussi dans les procès, d'où la difficulté pour les avocats de défendre ce type de dossier. Hein.
Oh, les avocats, ils sont... je les fréquente, je vais beaucoup dans les tribunaux. Ils ont un art extraordinaire de la mauvaise foi. C'est-à-dire que leurs clients, je crois qu'il y a un besoin d'empathie et de sympathie qui fait que leurs clients, ils peuvent vous les décrire en disant « il est hyper sympa ». Non mais vraiment, c'est un type formidable. Puis on voit le type et on voit une tête de tueur absolument terrifiante et ils sont obligés de faire cette bascule. Donc tout le monde est un peu dans un jeu de faux-semblants, dans un
tribunal. Ça, vous l'écrivez. Catherine, votre avocate, se vit comme une auteure de fiction doublée d'une actrice qui doit faire croire qu'elle raconte une histoire vraie.
Oui, c'est-à-dire
ça, c'est
que,
presque
voilà.
La définition du métier d'avocat, non ?
De métier d'avocat, du métier de romancière aussi. Et dans le cas d'Émilie et de son frère, ce qui m'intéressait pour essayer de comprendre quelque chose, parce que... On se sent pas nécessairement légitime. Enfin, il y avait. J'étais sur des domaines. Ça m'a posé beaucoup de questions en fait à écrire. De est-ce que je pouvais, est-ce que j'avais les moyens d'eux, est-ce que je pouvais comprendre. Et je me suis appuyée beaucoup sur mon expérience personnelle, même si je n'ai jamais été sous emprise. Mais ça s'est construit progressivement. Je pense que l'emprise tient par effectivement. L'inquiétude constante, c'est-à-dire vais-je être puni pour la chose que j'ai pas faite ou que j'ai faite que je suis pas consciente d'avoir faite, donc d'être toujours un peu sur ses gardes, donc d'être tenu, et l'impression que l'autre voit au travers, c'est-à-dire que si on ment, il va le savoir. C'est là, c'est Dieu, hein, c'est le doigt de Dieu qui va dire là tu as menti, je le sais. Et je me suis appuyée sur le grand frère parce que c'est mon expérience personnelle. J'ai eu un grand frère brillant que j'adorais, que je révérais et qui pendant en tout cas mon adolescence a eu une influence intellectuelle très très forte sur moi. Or avec le recul, je trouve que les choix qu'il faisait étaient allaient absolument contre finalement ce que je suis. Donc j'avais des bases pour essayer de comprendre ça. Et après, effectivement, quand on est tenu par la règle implacable, après, la dissimulation, elle fait partie du jeu. Je pensais aussi au roman de Robert Little, La Compagnie. Enfin, ça m'avait sidéré, parce que c'est une réalité historique, c'est-à-dire ces agents dormants qui pouvaient vivre comme... On le retrouve dans The Americans, c'est d'ailleurs la série, qui pouvaient vivre comme des Américains, et puis on les déclenchait d'un coup de fil, et crac, ils passaient à l'acte. À l'acte violent.
Le monde idéal est un rêve qui peut tourner au cauchemar quand on a le malheur d'y croire. Le califat, la charia, cette matrice djihadiste, elle repose aussi pour vous, Sylvie Granotier, sur une fiction, cette fiction d'une société plus égalitaire, idéale.
Alors ça, je l'ai découvert dans mes recherches. Je l'ai découvert parce que j'ai eu accès à des dossiers, j'ai eu accès à des fadettes, j'ai assisté à des procès de pieds nickelés du djihad, parce qu'il y en a aussi. Mais malgré tout, ce qu'on retrouve toujours, c'est qu'il existe quelque part, dans le monde réel, un lieu idéal. Et ça, c'est imparable. Parce que si on vous le décrit sous toutes les couleurs, en plus, la communication de Daesh était très efficace quand on voit les films. Ces jeunes gens sont très beaux et on voit d'ailleurs, j'ai vu et entendu des jeunes filles qui repéraient la dernière montre, les bonnes Nike, incroyables, comme il est sapé, comme il est élégant, comme il est classe, comme il est ci, comme il est ça. C'est-à-dire on vendait ce qui correspond en fait à un monde de la consommation, mais dans un lieu d'une certaine façon protégé de tout ce que la réalité en fait a de dur. Quand on sait que la réalité là-bas, elle était au-delà du dur.
Mais il y a quand même un désir de réinventer un monde idéal, de s'inventer une société qui n'aurait pas tous les défauts de la d'autre pour cette jeunesse-là. À travers ce roman, c'est quand même la fiction qui s'empare d'une autre fiction à prendre tout aussi au sérieux. Émilie, votre héroïne, dit à l'avocate Catherine, c'est comme ça, les religieux décident, inspirés par la parole divine, et eux ont les moyens d'imposer l'égalité et la fraternité. Tout le monde est obligé là-bas de rester dans un rapport horizontal et non plus vertical. Tout le monde est obligé de tenir compte de son voisin, pas le choix. Elle y voit plus d'avantages et de vertus que dans notre démocratie.
Oui, mais on retrouve ce rêve de l'homme fort, enfin qui nourrit les populismes, c'est-à-dire... Il y a quelqu'un qui va imposer ce monde idéal, puisqu'on n'y arrive pas par la démocratie, qui effectivement, elle, se coltine le réel avec tout ce qu'il a de rude, de déséquilibré. J'ai l'impression qu'en démocratie, on est toujours sur le fil, on est toujours dans la position du chat perché à droite, à gauche, et puis on essaye de tenir cette ligne. C'est beaucoup plus compliqué à vivre, et ça demande, moi c'est une chose qui me frappe, mais énormément en ce moment, je trouve que ça demande de la pensée. Je veux dire, pour vivre dans une démocratie, il faut penser. On peut pas se permettre une paresse intellectuelle ou autre. La paresse, effectivement, c'est de dire, Voilà, il existe, comme il existe un paradis, il existe un monde idéal, et puis si je le rejoins, tout ira bien. Mais c'est exactement comme le mythe du prince charmant. Un jour, il va arriver, et on sera heureux. Point. Voilà. Jusqu'au bout. Et le bonheur et le monde idéal, effectivement, ça s'invente, mais dans la difficulté et l'effort.
Un monde idéal, c'est donc un polar, on peut dire ça. Un roman judiciaire, une enquête qui explore la radicalisation islamiste d'une jeune fille, Émilie Michaud, observée à travers les yeux de l'avocate Catherine Monsigny, qui a accepté de défendre son fiancé, qui est en prison pour une affaire d'agression apparemment ordinaire, Slimane. Elle est donc, elle, en contact avec son frère, qui la tient sous étroite surveillance à travers ses échanges qu'il peut avoir, même à distance. Dans ce roman, vous cherchez à déconstruire aussi ces mécanismes de l'emprise, ceux qui peuvent faire basculer une jeune fille comme Émilie, issue d'un milieu favorisé, d'une famille franco-marocaine, cagneuse, qui puisse la faire basculer dans ce nouvel idéal mortifère. Comment a-t-elle pu se laisser entraîner vers la catastrophe annoncée? Est-ce que la finalité du roman, pour vous, Sylvie Granotier, c'est vraiment d'apporter des réponses à ces questions ou à cette question-là?
La finalité du roman, elle est très égoïste au départ. Elle est essayer de comprendre quelque chose qui m'échappe totalement, c'est-à-dire d'avancer là-dedans. C'est pour ça que j'avais besoin qu'Émilie soit une fille intelligente, une fille cultivée. Je suis toujours très gênée quand on présente les gens qui font les mauvais choix, comme quand on parlait de l'occupation, et qu'on fait des films en particulier où le collaborateur est un peu veule, un peu bête, et il se laisse entraîner presque accidentellement. Je trouve beaucoup plus intéressant de comprendre pourquoi quelqu'un va s'engager apparemment en connaissance de cause. Et ça permet aussi de dire ce qui constitue aussi Émilie, c'est-à-dire de temps en temps, elle ouvre les yeux. Et c'est « Ah !» Elle a peur, enfin il y a quelque chose qui se passe. Et puis elle les referme très vite. Et on l'aide à les refermer parce que, encore une fois, je pense que c'est plus facile de se dire « Je me laisse guider. Il y a quelqu'un qui sait. Voilà, il y a quelqu'un qui sait mieux que moi. Et moi qui ai fait de la philosophie, qui ai essayé de comprendre le monde, en fait, j'ai besoin qu'on pense à ma place. » Et il y a le support affectif. Mais ça, quand on voit les propagandistes, ils sont très très fort, c'est-à-dire psychologiquement, ça je trouve c'est assez fascinant, c'est-à-dire de savoir à qui ils ont affaire et sur quel bouton appuyer pour déclencher du désir, de la perte de soi, pour convaincre. Ils ont un... enfin je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils soient formés, je pense qu'ils ont un génie de ça, ce qu'on met à ces postes-là. Donc c'était essayer en tout cas de le vivre de l'intérieur, c'est-à-dire du point de vue d'Émilie, d'être d'un côté du point de vue de l'avocate bien-pensante, comme moi.
Et finalement, le suspense dans cette histoire, il est presque inhérent à la situation, inhérent à cette réalité, chercher à comprendre ce qui se joue, comment ça peut basculer, comment une jeune femme comme Émilie peut à un moment dériver vers une toute autre situation que celle pour laquelle elle était presque prédestinée. Cet art du suspense, s'il est naturel, est-ce qu'il faut quand même que l'écrivain le reconstruise pour en faire un bon roman? Je vous propose d'écouter, avant de vous donner la parole sur cette question, les mots de Yann Fleming qui interviewait Raymond Chandler, c'était pour la BBC en 58.
Mais je me demande quels sont vraiment les ingrédients de base d'un bon thriller. Évidemment, il faut qu'il y ait du rythme. Il faut que cela commence à la première page et que cela vous porte du début à la fin. Et je pense qu'il doit y avoir de la violence, je pense qu'il doit y avoir une certaine présence du sexe, il doit y avoir une intrigue de base. Les gens doivent avoir envie de savoir ce qui va se passer à la fin.
Oui, je suis d'accord. Il faut un élément de mystère. En fait, il faut même une situation mystérieuse. Le détective ne sait pas de quoi il s'agit. Il sait qu'il y a quelque chose d'étrange, mais il ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Il me semble que le vrai mystère n'est pas qui a tué Sir John dans son bureau, mais ce qu'était vraiment la situation, ce que les gens recherchaient. Quel genre de gens ils étaient.
C'est exactement ce sur quoi vous écrivez. Évidemment, vous développez beaucoup plus vos personnages que moi, et l'élément thriller dans vos livres est dans les gens, dans la construction des personnages, et pour une grande part dans les dialogues, qui pour moi font partie des meilleurs dialogues écrits en prose aujourd'hui.
Et pour vous, Sylvie Granotier, dans cette enquête, où est ou quel est le vrai mystère ?
Le mystère, il est partout. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, en gros, hein, parce qu'effectivement, c'est tous les ingrédients, mais ça ne peut pas se... C'est pas une mécanique artificielle. Elle est portée par l'histoire elle-même. Comme je suis essentiellement du point de vue de l'avocate, hein, je pense en plus qu'elle me fatiguait un peu, l'avocate que j'avais déjà utilisée deux fois. Donc d'une certaine façon, je m'en suis rendu compte après coup. Je l'ai un petit peu malmenée. Mais finalement, c'était bien parce que justement, quelqu'un qui, comme elle, a les a priori de la bien-pensance, c'est-à-dire elle est toujours du bon côté de la pensée, et du coup, elle se fait rouler dans la farine au moins, je dirais, autant qu'Émilie. Parce qu'elle a tellement de certitudes, elle a ce qu'on appellerait d'une certaine façon une idéologie, même si elle n'est pas politique, et ça la rend aveugle. Et du coup, elle devient manipulée, manipulable et manipulée, et ça, j'espère en tout cas, c'était mon but, parce que ça a créé du suspense pour le lecteur, je l'espère, mais pour moi. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout, à un certain moment, il y a eu des révélations pour moi. Ça, c'est toujours très étrange, mais c'est choses qui se révèlent et où je me dis, ah, d'accord. Donc, on va aller par là, puisque l'histoire va par là. En particulier, le rebondissement final qui m'accueillit, en réalité. Parce que jusqu'au bout, je n'ai pas su, en fait, comment ça allait se terminer. J'étais finalement comme l'avocate, à ne pas savoir s'il y avait effectivement une horrible histoire qui se tramait, un risque d'attentat, si simplement elle avait affaire à de la délinquance ordinaire comme elle en a tous les jours, et de gens qui se la jouent, qui se racontent des trucs qui sont pas vrais.
Et sans savoir si l'avocate va réussir à sauver ou non cette jeune héroïne de roman qu'est Émilie dans cette situation-là, si elle va pouvoir lui ouvrir les yeux, qui des deux va réussir à faire changer l'autre. Cette tension entre les deux, entre ces deux conceptions qu'elles peuvent avoir de la vie et aussi de la féminité, se retrouve dans leur dialogue autour du voile. Le voile intégral, une geôle ambulatoire pour Catherine l'avocate, rationnelle et valorisant au contraire pour la jeune Émilie. Une protection, dit-elle, contre le regard prédateur des hommes. Ça signifie, dit-elle, je ne suis pas sur le marché du sexe. Quelle est la plus, ou qui est la plus féministe des deux à vos yeux?
C'est une question que j'ai été amenée à me poser aussi en lisant les écrits de féministes défendant le voile. Et moi, je me souviens, habitant près de Pigalle, quand mes enfants étaient petits et quand l'école les amenait dans des sorties, ils passaient devant ce qu'ils appelaient les sexy shops. Et il y avait dans les kiosques à journaux, mais des publications affichées qui étaient monstrueuses, enfin qui sont toujours d'ailleurs, ça existe toujours. Comment est-ce qu'on explique ça à un petit garçon? Moi, c'est quelque chose qui m'a posé problème. Donc, quand on commence à voir les choses sous ce jour-là, on se rend compte que la question est plus compliquée. Sauf que, encore une fois, je pense que vivre en démocratie, c'est vivre la complexité des choses, cet équilibre. On ne peut pas interdire radicalement, mais en tout cas que les corps soient, je dirais, presque palpable, non pas qu'il faille se toucher en permanence et que les hommes doivent toucher les femmes dans le métro et autres, mais que le corps soit offert comme le visage l'est. Je pense que c'est un acte de confiance et un acte qu'on vit tous ensemble et on peut vivre tous ensemble en s'exposant. Et quand on commence à mettre des barrières, c'est comme les murs qu'on monte, il y a quelque chose qui ne va pas du tout.
Mais vous voyez des avancées ou une régression sur ces questions du droit des femmes aussi, et de l'émancipation des femmes? Vous racontiez votre enfance au Maroc, cet ami qui avait soudain disparu. Il y a cette confrontation aussi des générations, à la fois à travers le personnage de Catherine, celui de Prudence, celui d'Émilie. Vos héroïnes, les trois du roman, sont quand même féminines. Vous avez eu aussi, vous, à un moment 20 ans, vous avez dû vous projeter dans la suite, vous demander quelle femme être, quel sens donner à votre vie? Vous avez connu ces tiraillements intérieurs, probablement, comme chacun ou chacune d'entre nous. Est-ce que vous pensez que le dilemme actuel pour cette génération a beaucoup changé?
Ben, il n'est plus du tout du même ordre. C'est... Moi, j'ai effectivement eu la chance d'avoir 18 ans dans les années 70, d'être partie aux États-Unis, qui était vraiment le démarrage du Women's Lib. Et tout ça m'a semblé d'un naturel absolument confondant. C'est-à-dire, ça allait aussi bien du fait de ne plus porter de soutien-gorge que d'être dans des rapports que je n'avais pas connus en France d'ailleurs, et qui sont devenus essentiels dans ma vie, c'est-à-dire d'amitié entre les femmes, sans rivalité. Donc j'étais aux États-Unis au moment où ça se passait, ça m'a ouvert tout un univers, et en même temps, le problème de la féminité ne se posait même pas. Cette libération qu'on a connue, elle se faisait, on avait l'impression, de façon générale, et puis on se retrouve un jour avec des jeunes filles qui se voilent, qui cachent leur corps, et qui quoi vont refuser la contraception, l'avortement, c'est-à-dire tout ce qui semblait acquis pour l'éternité, maintenant le combat reste à mener toujours.
Midi 21 sur France Culture, avec notre invitée, l'écrivaine, la romancière et scénariste Sylvie Granotier, à l'occasion de la parution de son roman « Un monde idéal », c'est chez Albin Michel. Musique ?
Pour niquer mon moral, elles se sont fait toutes belles. Les bonnes et les mauvaises nouvelles. Et ce frère me manquera, et ce frère me manquera. Fin de route, laisse-moi mettre un dernier coup de pelle. Tout est fini, tout a changé, tout ce qui se passe en pire. Qui vient prendre mes pattes, un 4 c'est 4 matins, je m'en tire. Ça y est, j'ai perdu le binôme, l'affaire avale et ma carte. Casser la gova, fini le bédo et rendu l'appart. Et j'ai plus rien à perdre si tu dois me faire felle. Oublier qui j'étais pour elle. Et madame est partie, et madame est partie. Les souvenirs et le vécu remplissent la poubelle. Ce soir je fais la fête. Ce soir je fais la fête. Ce soir je fais la fête. Tout seul et tout me manque. Ce soir je fais la fête. Ce soir je fais la fête. Ce soir je fais la fête. Tout seul. Fais passer la vodka gros, j'ai fini tout le rhum. J'suis pas foutu mais c'est tout comme. Mon frérot ramasse-moi, mon frérot ramasse-moi. J'veux pas qu'il se foute de ma gueule sous Jack, on fait tous l'homme. La vie dit j'vais te la mettre, écrit en toutes lettres. Ne parle que de défaite et ne sait que se battre en crêtre. Demain ne promet rien, s'illusionne ou se ment. Je la laisse faire son œuvre, me couler doucement. Je ne répondrai plus jamais à ses appels. Fais descendre l'espoir en rappel. Les coups je les sens plus, le froid je le sens pas. Cousin renvoie la corde et profondeur m'appelle. Ce soir je fais la fête. Ce soir je fais la fête. Ce soir je fais la fête.
Dernier album, Les Affranchis, celui du rappeur français Sofiane. Il sera Gatsby, le magnifique, jeudi 2 et vendredi 3 mai, dans une adaptation libre du roman de Fitzgerald, aux côtés de Rebecca Marder, de la comédie française de Pascal Rénéric, et sur une musique originale d'Issam Krimi. Cette création de France Culture pour le Festival d'Avignon, l'été dernier, revient au studio 104 à Paris. Réservation sur maisondelaradio.fr. Et pour vous donner un avant-goût...
Écoutez, que pensez-vous de moi là, franchement, cher vieux? Bon, je vais vous apprendre deux, trois choses que vous me connaissiez mieux. Je ne veux pas que vous ayez une fausse idée de moi à travers tout ce qu'on raconte. Ok, je vais vous dire la vérité de Dieu. Je suis le descendant de gens extrêmement riches du Middle West, tous morts aujourd'hui. J'ai grandi en Amérique, mais j'ai fait mes études à Oxford, comme toute ma famille. J'ai donc hérité d'une grosse fortune. Car plus aucun n'est en vie et j'ai vécu ensuite comme un jeune nabab à travers toutes les capitales d'Europe. Paris, Rome, Venise, collectionnant les pierres précieuses, les rubis en priorité. Chassant le gros gibier et peignant un peu mais uniquement pour mon plaisir. Et essayant d'oublier quelque chose d'infiniment triste qui m'était arrivé auparavant. Et puis la guerre est arrivée, cher vieux. Un soulagement pour moi. J'ai tout fait pour être tué mais ma vie semblait comme protégée par un charme. J'avais le grade de capitaine. Dans la forêt d'Argonne, j'ai poussé deux détachements d'artillerie très haut sur les lignes. Nos obus avaient creusé de si profonds entonnoirs que l'infanterie n'arrivait même plus à s'y déployer. Nous avons tenu deux jours et deux nuits, 130 hommes, 16 fusils mitrailleurs. Et quand les fantassins nous ont enfin rejoints, ils ont identifié sur cet entassement de cadavres les insignes de trois divisions allemandes. J'ai été promu commandant et décoré par tous les états-majors alliés, y compris celui du Monténégro. Oh, tenez! Voici la médaille du Monténégro. Retournez là.
Gatsby, œuvre à rendre ses rêves réels, ne se laisse jamais assigner à aucune condition sociale. Je suis le produit d'un esprit qui ne sait pas ce qu'il veut dans une génération inquiète. Voilà ce que disait l'auteur à la sortie de ce troisième roman, Gatsby le Magnifique, en 1925, Sylvie Granotier. On peut faire le parallèle avec ce monde que vous nous racontez, vous, dans votre roman, de cette génération inquiète qui cherche par tous les moyens à s'inventer un monde idéal dans un monde de plus en plus vain, tel qu'il leur semble en tout cas.
On est dans ce jeu très étrange entre dont on a vu encore la démonstration en Ukraine, mais entre la fiction et le réel. Je pense qu'on ne vit qu'en s'inventant des fictions. On passe notre temps à rêver notre vie. Mais quand on décolle trop du réel, on s'écrase au sol. C'est ça qui se passe. Donc, je pense que de génération en génération, chaque génération s'invente son propre rêve. Et il y a ceux qui arrivent à le matérialiser d'une certaine façon et ceux qui s'écrasent. Et je tiens à dire que j'ai entendu la version d'Avignon du Gatsby qui est absolument magnifique.
Alors attention, parce que ça ne va pas finir de vous plaire. Sofiane Zermany sera aussi cet été au Musée Calvet lors du Festival d'Avignon pour une nouvelle création France Culture. Mais ce ne sera pas cette fois Gatsby le Magnifique, ce sera à partir d'un épisode de l'Iliade où il interprétera Achille.
Formidable.
Homer en exergue aussi de chaque partie, de chaque chapitre de votre roman, Sylvie Granotier, marqué par les saisons avec des citations de l'Odyssée et de l'Iliade. Pourquoi ? C'est une invitation à repenser aussi notre rapport au temps.
Il y a beaucoup de choses. De façon très concrète et très simple, j'étais en train de découvrir Homer, comme quoi il n'est jamais trop tard. Et j'ai été embarquée, c'est le cas de le dire, emballée par la force du récit, il y a tout, parce qu'il y a à la fois le suspense, la poésie. Et j'étais tellement pleine d'Homer et tellement admirative, et comme quand on découvre quelqu'un et qu'on tombe un peu amoureux. Et j'avais ce problème de comment j'allais marquer le passage du temps, puisque effectivement, ça se déroule finalement sur une année. Je me suis dit que les quatre saisons, j'allais essayer de trouver dans Homer des descriptions des saisons qui correspondent un peu à l'esprit de cette partie-là du roman. Donc ça a été un boulot de recherche un peu délicat, mais c'était une forme, modestement, mais une forme d'hommage rendu à ce grand poète et puis ce défricheur de terre, parce que c'est quand même, il a inventé l'art du récit.
Et l'héroïsme aussi, d'une certaine manière.
Et l'héroïsme.
Et alors du coup, Sofiane en Achille, ça fonctionne pour vous? Ça peut fonctionner?
L'idée m'enchante, absolument. Et les autres?
Ça, on ne pourra pas vous dire. On n'a pas pu en parler, mais je crois que vous ne l'avez pas vu. Il y a un film en ce moment, L'adieu à la nuit, de André Téchiné, à voir en salle actuellement. Dans ce film, c'est Catherine Deneuve qui incarne une grand-mère qui apprend elle aussi la radicalisation de son petit-fils. Comme se pose la question de savoir comment ce jeune homme qui ne croyait pas en Dieu peut envisager de tuer, de se sacrifier au nom d'un Dieu auquel tout à coup il adhère.
Ça m'intéresse beaucoup de voir le film d'André Téchiné, parce que dans le rapport des proches et de la famille, il y a à la fois l'incompréhension quand on y est en face, et aussi l'art de fermer les yeux devant quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer ni à comprendre.
Cette implication-là, on la retrouve du coup dans votre roman « Un monde idéal », Sylvie Granotier chez Albin Michel. « L'adieu à la nuit », le film d'André Téchiné, est à voir en ce moment au cinéma. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.